Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de G comme Odéon, une émission pour les curieux et tous ceux qui aiment pousser la porte des librairies, des théâtres, des galeries et des salles de concert. Tous ceux pour qui Lyon n'est pas que gastronomie, mais aussi culture et éclectisme. Cette semaine, il sera question, dans les secondes qui suivent, de contrebande, de quidam, de la couleur bleue et de subsistance. Et bien entendu, nos Gédéons, nos coups de cœur du moment. Cette semaine, je vous propose une visite de l'exposition Contrebande, musique alternative et culture cassette en Auvergne-Rhône-Alpes, 1980-1999. J'ai retrouvé Simon Debarbieux, anthropologue, chercheur indépendant et disquaire au cœur de l'exposition au quatrième étage de la bibliothèque de la Pardieu pour faire le tour de cette exposition foisonnante à la découverte de la musique underground de ces années-là. Je vous propose de nous écouter dans l'exposition. Qui êtes-vous, Simon ?
J'ai un parcours en anthropologie musicale à l'université. J'ai plus ou moins bifurqué à la suite de mes études et je me suis engagé dans diverses sortes de projets culturels, dont une web radio musicale que j'ai quitté au bout de 3 ans. Et puis je me suis après investi plutôt dans un magasin de disques. Et moi, je suis rentré dans ce magasin de disques par en gros la gestion de projets éditoriaux, qui était de faire des compilations, de la réédition de musique oubliée ou disque rare. Bref, et dans toutes ces recherches que je pouvais faire sur ce qui se passait autour de moi, parce que c'est ça aussi qui nous anime dans ces projets-là, des choses qui sont soit associées à la région, soit à la France. J'avais découvert, je vous passe un petit peu les détails, mais l'existence d'une scène assez riche en Auvergne-Rhône-Alpes, mais en fait qui était aussi bien plus vaste, enfin connectée à un réseau beaucoup plus large. Quoi qu'il en soit, il y avait des acteurs assez intéressants en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment à Grenoble et à Lyon. J'ai eu l'idée de monter ce projet-là, qui me semblait être suffisant pertinent pour faire l'objet d'une subvention et d'être considéré comme un véritable objet patrimonial, ce qui n'avait pas du tout été le cas. Et donc cette exposition, en fait, elle parle d'une scène musicale qui a existé bien au-delà de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui a été assez présente et assez pertinente dans la région, qui est en fait une contre-culture musicale qui arrive au début des années 80, à la suite des grands chamboulements esthétiques qu'il y a eu dans les années 70 par toute une série de mouvements musicaux comme le punk, la musique industrielle ou la no wave, du coup qui émerge et qui est portée à la fois par un précepte qui est celui du DIY, du faire soi-même, de faire les choses soi-même, et puis qui est aussi facilité par toute une série de petites révolutions technologiques, principalement la cassette audio qui a été son support principal de diffusion. Bien d'autres aussi comme d'autres...
L'enregistreur 4 pistes, vous en avez un exemplaire ici d'ailleurs qui vous appartient, Simon Debarbieux. Vous avez collectionné depuis longtemps des objets de ce type ?
Alors ça, c'est pas vraiment une collection parce que je l'utilise plus ou moins. Après les cassettes, c'est des objets qui sont très très rares aujourd'hui, très très durs à trouver. Parce que c'était fait en toute petite quantité.
Vous voulez dire les cassettes produites par ces groupes, ouais. Ouais, c'est ça, j'imagine qu'ils sont difficiles à trouver.
Parce que parfois c'était limité au nombre d'exemplaires qui étaient commandés, donc ça pouvait aller de 10 à 200. Enfin, j'entends, c'était vraiment de la fabrication qui était très artisanale, donc c'est assez difficile à trouver, ça se vend à des prix exorbitants aujourd'hui sur le marché. Il y a eu pas mal de passionnés qui, à partir du milieu des années 2000, ont commencé à monter des blogs, en fait, c'était la grande mode du blog, et en fait à mettre à disposition ces enregistrements.
Être très précis, la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, avait proposé de retrouver ces supports qui étaient des supports cassettes qui étaient en voie de disparition pour pouvoir les numériser et conserver cette mémoire. Est-ce que c'est bien ça ?
En fait, il y a une subvention qui est associée à un projet patrimonial à la DRAC qui s'appelle Mémoire du 20e et 21e siècle en Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, la DRAC alloue des fonds pour des projets qui sont associés à conserver ces mémoires-là. Et en réalité, c'était pas tellement constitué un fonds d'archives physique parce que c'est trop compliqué de retrouver ces objets-là ou ce serait trop coûteux. Mais l'idée, c'était plutôt d'avoir un projet. Puis ce qui intéresse la DRAC aussi et la région, c'est plutôt de tout l'aspect médiation, quoi. Mais ce qui est important pour eux, c'est qu'il y ait des événements qui puissent permettre au public d'être amené à connaître ce qui qui s'est passé dans la région. Je suis en train effectivement de constituer un fonds d'archives numériques parce que à travers ce projet, j'ai récupéré des centaines et des centaines de cassettes. La plupart ne m'appartiennent pas, hein, mais je les numérise quand même. Et donc, je suis en train de faire un fonds d'archives numériques pour la bibliothèque municipale de Lyon et le fonds local. Et voilà, l'idée, c'était plutôt de produire toute une série d'événements, entre guillemets, autour de ces questions-là. Donc, il y a eu deux émissions de radio qui ont été produites par mes soins et diffusées sur l'île radio. Il y a eu cette exposition. Il y a eu une interview, petite publication dans Musique Journal, petit quotidien, enfin, un petit magazine musical qui est associé à Audimat et qui est tenu par Étienne Menu. Et il va y avoir une compilation qui va être faite et qui va être publiée avec le magazine 10 dans lequel je travaille actuellement. Donc c'était vraiment ça qui intéressait la DRAC et du coup...
L'exposition est également un beau projet pour justement parler de ces époques. On disait que quand on arrive au quatrième étage, hein, vous prenez l'ascenseur de la bibliothèque, hein, comme nous ici, vous arrivez, vous êtes déjà accompagné par un fond sonore, vous avez décidé de mettre une bande son. C'est le seul endroit d'ailleurs vers l'ascenseur où on a un fond sonore. On a des casques, en revanche, bien sûr, pour pouvoir s'isoler et écouter. Et on a des visuels où on voit des gens qui ont fait peut-être partie de radio ou qui ont enregistré eux-mêmes donc derrière des platines. On est baigné finalement dans cette culture. Tout est rouge et noir. Est-ce que c'était un code couleur qui était en vogue à l'époque? Dimension très militante finalement aussi de ces mouvements.
D'abord, le fond musical, effectivement, c'était important de le mettre, que la musique soit présente, c'était très important parce que le prétexte premier de toute cette scène-là, c'est de la musique d'abord et avant tout. Et effectivement, après, il y a énormément de supports imprimés qui ont existé en parallèle à ça, tout simplement parce que c'est le début des années 80, il n'y a pas Internet, le digital est encore assez balbutiement. Donc en fait, il y a encore énormément de choses qui circulent sur format papier, l'essentiel circule sur format papier. Et dans la lignée d'autres mouvements artistiques d'avant-garde qui datent dans les années 80, qui datent de 20 ans, qui est par exemple Fluxus, l'un des principes c'était plus vous produisez, plus vous diffusez, plus votre projet va être connu, quoi.
L'art c'est la vie, comme dirait Ben.
Exactement. Donc effectivement, du coup, il y a eu une pléthore de choses qui ont été produites à cette époque-là et il y avait effectivement des archivistes rigoureux qui ont gardé beaucoup de choses. Ensuite, pour la question de toute l'ambiance de l'exposition, c'est quelque chose qui a été vraiment fait main dans la main avec un cabinet de graphistes qui s'appelle Service Local et avec lequel on a vraiment vraiment travaillé ensemble. Alors c'est vraiment eux qui ont pensé la scénographie, ils avaient bien plus l'habitude que moi de faire ça. Donc l'idée c'était d'avoir une proposition qui était suffisamment pertinente, voyante, choc d'une certaine manière pour que ça laisse pas les gens indifférents.
Il y a un côté constructiviste russe.
Certainement, c'est vrai qu'il y avait beaucoup ces couleurs-là dans le constructivisme. Ouais.
Le blanc, le rouge, le noir, les lignes qu'on retrouve ici.
Bah, c'était l'idée aussi de jouer avec des contrastes forts et puis c'est aussi que toute l'esthétique qui accompagnait en fait aussi cette scène musicale, elles avaient, on pourrait dire qu'elles allaient puiser aussi un petit peu là-dedans, à savoir que ça mobilisait énormément d'imagerie qui était associée soit au conflit armé, soit au fascisme, non pas parce que les acteurs étaient nécessairement des fascistes, mais tout simplement parce que l'idée c'était de choquer les gens. Le parti pris a aussi été celui-ci.
Le titre Contrebande, ça nous renvoie finalement aussi à des années qui sont des années militantes.
Cette scène-là aussi, encore une fois, au début des années 80, il faut se rendre compte que c'est une forme de désert culturel, que vous n'avez pas Google, donc vous ne pouvez pas aller chercher des propositions culturelles complètement obscures aussi facilement que ça, et que vraiment c'est un vrai engagement du quotidien de pouvoir avoir accès à des propositions culturelles alternatives.
On refuse le mainstream finalement pour rentrer aussi dans une forme de dialogue. On voit notamment tout un mur d'échanges de correspondances avant la naissance d'Internet. Finalement, on écrivait beaucoup. Les visuels traversaient l'Europe.
Pas Internet, le téléphone coûte encore très cher, à la différence d'aujourd'hui aussi. Meilleur moyen pour communiquer, c'est effectivement le service postal. Et puis aussi ça. Donc effectivement, il y a eu des correspondances qui étaient extrêmement fleuries, comme on peut le voir là sur le mur. Il faut savoir que ça s'inscrit aussi. Alors, deux choses. La première, c'est qu'il n'y avait pas que des enveloppes qui circulaient, mais il y avait beaucoup de cassettes aussi. C'est l'avantage de ce format-là. C'était que ça pouvait glisser très facilement dans une enveloppe. Et vous pouvez vraiment les envoyer loin, c'est-à-dire qu'il y avait un format qui s'appelait l'aérogramme qui a cessé d'exister en 2002 mais qui a été créé dans les années 60 et vous pouviez envoyer pour une somme ridicule une lettre au Brésil, au Japon, alors qu'aujourd'hui ça vous coûte extrêmement cher. La deuxième chose, c'est que cette pratique-là, elle s'inscrit dans la continuité d'autres pratiques qui sont nées dans les années 60, encore une fois une qui est parallèle au mouvement Fluxus, forme d'art qui s'appelle le mail art. L'idée d'utiliser le service postal comme diffuser des créations en opposition à tout le système des galeries qui existait alors, de remettre en question le statut de l'art et de l'artiste et de l'œuvre aussi. Et puis tout un réseau qui était préexistant à cette scène-là, de mail artistes qui s'envoyaient, qui s'envoyaient des listes de contacts, qui correspondaient entre eux, qui faisaient des projets comme ça par le biais de la poste. Et en fait, beaucoup de ces acteurs ont utilisé ces réseaux qui étaient déjà préexistants pour pouvoir créer, recréer leur propre réseau d'une certaine forme de sous-partie encore du mail art, du coup, qui ajoutait toute la dimension sonore.
Et est-ce que des groupes de notre région, là on voit Saint-Étienne, Lyon, Clermont-Ferrand, Bourg-en-Bresse, Annecy, Grenoble, Annonay, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, est-ce que certains de ces groupes ont survécu à cette époque?
Ouais, carrément. Parenthèse, je précise juste aussi que l'avantage du service postal, c'est que ça permettait en fait à des gens qui étaient isolés géographiquement de faire partie de cette scène-là. Du coup, c'est une scène qui est décentralisée et qui est structurée en réseau. Et en gros, il n'y a pas Paris ou Londres ou New York qui dirigent un petit peu l'essentiel du mouvement, mais qu'en fait, c'est tout aussi bien par des individus qui sont à Annonay ou à Bourg-en-Bresse. Si étant, oui, il y a effectivement des gens qui ont survécu à ça. Il y en a qui font encore de la musique. Je pense à Lyon, bah, vous avez par exemple In Aeternam Valley, Laurent Pro ou Klim Perret, Christophe Pechana. À Bourg-en-Bresse, Diform qui fait encore aussi de la musique. D'autres, Alain Basso de Annecy aussi qui en fait encore, Lieutenant Caramel évidemment, qui fait encore aussi de la musique. Voilà, donc effectivement, il y en a qui ont survécu à ça, qui sont restés très fidèles à leur pratique de l'époque, qui continuent de fonctionner.
Est-ce que ce sont aussi des collectionneurs?
Non, pas toujours, non. Non, vous en avez quelques-uns qui ont principalement gardé leurs archives. Il y en a beaucoup qui avaient aucun intérêt dans le fait de garder des choses de cette époque-là. Voilà, c'était, enfin, il y avait aucun intérêt pour ça, tout simplement.
Donc les collectionneurs ne sont pas toujours les faiseurs.
Souvent, c'est bien le contraire, ouais. Et c'est bien le problème.
Donc vous disiez en fait que vous vous étiez rapproché finalement de collectionneurs. Est-ce que c'est une exposition qui s'adresse aussi un peu aux nostalgiques?
Oui, d'une certaine manière. Alors moi, on pourrait dire que c'est étonnant puisque je suis né trop tard pour avoir connu cette scène-là. Donc d'une certaine manière, c'est la nostalgie d'une époque que j'ai pas connue. Je pense que en fait, il y a d'autres choses qui se jouent à ce niveau-là. Alors déjà, en fait, les années 60, 70, 80, c'est des années qui ont été 90 aussi, qui ont été extrêmement importantes dans l'histoire de la musique du 20e siècle et du 21e. Elles ont déterminé énormément de choses. Je pense à aujourd'hui tout simplement la musique pop d'aujourd'hui, c'est le rap, et le rap, c'est né dans les années 80, dans les années 90, entre autres formes urbaines, formes de culture urbaine. Ça a été des décennies qui ont été très pertinentes, et les années 80 particulièrement.
On dit que la cassette est en train de revenir.
Oui, elle revient plus ou moins, mais c'est plutôt dans les manières de faire. Je veux dire, aujourd'hui, en fait,
c'est évidemment marginal.
On est assisté pour beaucoup de choses. À l'époque, voilà, le DIY, c'était un vrai engagement militant. Aujourd'hui, le DIY, voilà, vous mettez sur YouTube, vous tapez macramé DIY, et puis vous avez 50 000 vidéos qui sortent. Ça a plus tout la même charge, à mon sens. Donc, c'était important, je pense, de le remettre en avant.
On est devant un mur aussi, dans la section 3. C'est tout un univers aussi graphique qu'on évoque. C'est-à-dire la reprographie, on a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, bah, des méthodes un peu, comment on pourrait dire, un peu artisanales. Hein. On faisait tout à la maison, quoi, avec des objets et des petites machines à écrire, enfin, sur du papier de base. Et parfois, on voit bien que certains éléments de votre collection, ou de ce que vous montrez ici dans l'exposition, c'est très fragile. Parce qu'il y a aussi une pochette en plastique, parce que tellement le papier, en fait, était de mauvaise qualité.
Après, pour ce qui est affiché là, effectivement, donc c'est des supports imprimés, c'est du papier. Ouais. Le papier, effectivement, c'est fragile si c'est mal conservé, évidemment. Du coup, une esthétique, oui, parce qu'il y a une autre forme de révolution technologique qui se démocratise à la fin des années 70, c'est la photocopieuse. Mmh. Et du coup, ça permet, en fait, d'imprimer, de reproduire à très faible coût des contenus éditoriaux.
Ça faisait penser aux stencils quand on était enfant, c'est-à-dire les machines qu'utilisaient nos maîtresses, en fait, hein, nos instituteurs, avec cette odeur d'alcool. Et je suppose, en fait, que certains documents ont été faits de cette manière-là.
L'essentiel, là, c'est quand même la photocopieuse. Vous avez effectivement d'autres formes d'impression que l'offset ou la sérigraphie, d'ailleurs. Mais c'était principalement fait à la photocopieuse. Et puis surtout, en fait, ce qui était très important là-dedans, c'était que ça permettait, tout aussi bien que la musique qui était diffusée, d'informer sur ce qui se passait dans le réseau, et puis de l'étendre plus encore. C'est-à-dire que si quelqu'un pouvait être amené à tomber sur un fanzine, il y avait toujours des listes de contacts qui accompagnaient ces fanzines-là, qui permettaient à ces gens-là de pouvoir entrer en réseau avec les acteurs de la scène.
Alors, on voit beaucoup de collages, de photomontages, de dessins, de graphismes, de détournements d'images, d'associations d'images et de mots, qui font penser, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, au constructivisme russe. Ça me rappelle des pochettes de disques, alors des Sex Pistols, mais aussi d'autres, enfin, etc.
Oui, je pense que c'est parfaitement vrai, dans la mesure où à la fois ces mouvements, encore une fois, d'avant-garde, dont on parle aussi un petit peu ici, ils ont été très très importants tout au long de la décennie, ils le sont encore aujourd'hui, hein. C'est encore des esthétiques qui influencent, ou des techniques qui influencent énormément les productions actuelles, et puis d'ailleurs vous parlez des pochettes des Sex Pistols, ils procèdent exactement de la même manière. Et voilà, encore une fois, il n'y a pas d'ordinateur, donc on fait tout avec un ciseau et un tube de colle, et puis des vieux magazines, et puis une photocopieuse, donc effectivement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que cette esthétique, elle est très forte, elle est très marquée, et elle a influencé, je pense, beaucoup plus que ce qu'on ne se le représente, elle est encore très présente aujourd'hui, c'était ça l'intérêt pour nous deux.
On se retrouve dans la dernière section, la section 5, où il y a des images vidéo, mais pas seulement, il y a quelques objets aussi qu'on retrouve, et notamment un objet très étrange, un slip.
Ouais, c'était l'histoire de faire une petite blague aussi, mais c'était voilà, un des acteurs de cette scène-là qui a absolument tout gardé dans ses archives, dont ce slip-là, et tout support et prétexte à la création, donc un slip aussi, et du coup c'est un slip qui a été sérigraphié pour le premier concert de Nonono au 102, si je ne dis pas de bêtises, qui était vendu lors du concert.
C'est au lieu du célèbre t-shirt qu'on achète aujourd'hui, il y avait des slips à l'époque. Ça se fait plus tellement, hein, la vente de slips comme goodies.
Ce qu'on appelle le merchandising peut avoir tendance à disparaître.
Vous disiez tout à l'heure que ce type de scène s'accompagnait d'une dimension performative, un peu excessive parfois. Là, on voit un personnage qui se roule par terre.
Oui, donc cette scène musicale, c'était plutôt en réalité des musiques qui étaient produites à la maison, qui n'avaient pas vraiment vocation à être amenées sur scène. Mais encore une fois, dans les influences de cette scène-là, il y a évidemment les groupes de musique industrielle des années 70 qui eux-mêmes sont très très influencé par Fluxus, et dans le mouvement artistique Fluxus, le happening, la performance est une dimension qui est extrêmement importante. Donc effectivement, il y a beaucoup de mise en scène, il y a beaucoup de costumes, il y a beaucoup de vidéos aussi parfois du cinéma expérimental qui accompagnent les performances.
Donc, on sent une très grande liberté de création. Qu'est-ce que ça fait du bien ? J'ai l'impression en fait qu'à notre époque, on est très auto-censuré. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'anthropologue de la musique ?
J'ai l'impression qu'effectivement, ce qui était transgressif à l'époque ne l'est plus aujourd'hui. La transgression, elle se fait différemment. Effectivement, les mentalités évoluent, la morale avec. Est-ce que c'est plus difficile d'être transgressif aujourd'hui ? Je sais pas trop. C'est une vaste question. Mais je pense que ça s'analyse pas de la même manière. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais effectivement, à l'époque, traiter une paire de fesses ou une entrejambe, c'était quelque chose de très transgressif. Le faire sur scène aussi, aujourd'hui, c'est des choses qu'on accepte beaucoup moins.
Effectivement, des entrejambes féminins, visage, par exemple, ici, avec White House, un visage féminin avec des doigts dans sa bouche, enfin, je veux dire, il y a des visuels qui pourraient être, par exemple, choquants pour des féministes, enfin, à l'heure du wokisme et de la cancel culture. Bon, très clairement, c'était pas leur problème à cette époque.
Ouais, carrément. Et ça, c'est vrai que effectivement, cette scène-là, elle est quand même plutôt masculine. Elle est plutôt masculine, c'est vrai. Le rock français dans les années 80, il est profondément machiste.
Ouais, en même temps, derrière vous, il y a une très jolie femme, en fait, qui chante.
Sylvie Loquet de Denier du Culte, effectivement. Ouais. Mais c'est pour ça, nous, on a essayé aussi autant qu'on le pouvait de mettre en avant femme, parce qu'il y en a eu, il y a eu aussi Hélène Olivo, imprimée en très grand, qui a été une des fondatrices de SWK, qui était une radio libre, radio associative à Saint-Etienne. C'est autant que faire se peut de mettre en avant les femmes là-dedans, mais malheureusement, c'est vrai que c'était plutôt une scène qui était masculine, et d'une manière générale, la musique était plutôt une affaire d'hommes aussi. Et puis surtout, ces courants-là qui dérivent d'une manière très très générale, je suis très schématique, hein, mais du rock. Le rock, c'était un gros truc de macho.
De macho.
Et ça, faut pas l'oublier quand même, quoi. Et je pense que ça l'est d'ailleurs toujours encore.
L'exposition, c'est jusqu'à quand ?
L'exposition, elle est jusqu'au 19 août.
Contrebande, et c'est au 4e étage de la bibliothèque municipale. Et en faire un catalogue d'expo ou un livre ?
Alors, c'est le projet. On aimerait bien essayer de pouvoir la proposer dans un plus grand espace, tout simplement pour avoir plus de place. Et effectivement, l'idée, ce serait après de pouvoir faire un catalogue d'exposition aussi en pouvant étendre le focus sur la scène française.
La bibliothèque centrale fait décidément un excellent travail. La semaine dernière, nous évoquions dans la chronique de Gaël l'exposition du photographe Mathieu Pernaud, Atlas en mouvement, au premier étage de la bibliothèque de Lapardieu. Nous ne pouvons que recommander la fréquentation de ce lieu où la mixité sociale et la connaissance font bon ménage. Nous poursuivons avec toi, Gaël. Il y a 2 semaines, tu évoquais l'exposition RVB au musée de l'imprimerie. Rouge, vert, bleu, au musée de l'imprimerie et de la communication graphique. Cette semaine, on te retrouve à nouveau tout de bleu vêtu. On s'en fiche, nos auditeurs ne sont pas là pour voir que tu as du rouge et du noir. Depuis, j'ai lu Bleuet de Maggie Nelson, que j'ai adoré, merci Gaël. Belle découverte. Quelle est donc cette étrange contamination azur qui semble envahir notre ville à un mois de l'été, Gaël ?
Alors souvenez-vous, en 2021, l'installation La Tornade investissait les subsistances. Puis en 2022, le Kraken, une immense structure en bois recyclé. Cette année, les subs plongent dans la couleur bleue. Alix Boileau, dont j'ai récemment parlé pour l'exposition donc RVB au Musée de l'Imprimerie et de la Communication Graphique, a créé sur l'esplanade des Subs une gigantesque terrasse aquatique propice aux rencontres, véritable invitation au rassemblement, qualifiée d'agora par l'artiste. Bleu est le titre de l'installation. Elle est constituée d'un bassin fontaine central d'un diamètre de 6 mètres et de deux fontaines de 3,50 m. Toutes les fontaines sont alimentées avec de l'eau de puits récupérée. Sachez que 10 000 litres d'eau de puits récupérée sont stockés sur le site pour remplir l'eau des fontaines. L'installation bleue comprend également 72 mètres de bancs répartis en plusieurs fragments autour du bassin fontaine central et sur lesquels vous pouvez vous asseoir. 14 grands drapeaux bleus et une scène viennent parfaire cette démarche artistique. Le choix du bleu a, pour Alix Boileau, plusieurs origines. Déjà la lecture du livre Bleuet de Maggie Nelson, dont j'avais récemment parlé. Bleuet, donc l'un des livres les plus offerts, à peine lu, on l'offre, ce qui s'est passé d'ailleurs pour Alix Boileau. Le bleu marque aussi un appel à l'imagination de chacun. Il rappelle les fonds utilisés au cinéma pour les incrustations, car en effet, ce n'est pas toujours l'écran vert qui est utilisé. C'est donc à chacun de projeter des images, des pensées, des fictions sur ces étendues de bleu. Le bleu, c'est aussi l'eau. L'eau à l'origine de la vie et l'eau qui permet le maintien de la vie. L'eau également enjeu géopolitique et ressource vitale, mais non infinie. L'eau, le nouvel or bleu. L'eau de la Saône aussi, qui coule le long des subsistances. Et l'eau de la mer, l'eau salée. Celle d'ailleurs présente dans l'installation d'Alix Boileau, ces vases Médicis sont façonnés en ciment blanc et en sel. Avec le temps, les vases s'altéreront, mais seront au fur et à mesure remplacés. Aussi, Alix Boileau utilisera progressivement plus d'une tonne de sel sur les 6 mois de programmation. Pour tout connaître sur l'œuvre d'Alix Boileau, faites les visites intitulées « Visite philo bleu ». L'installation bleue va vivre au rythme de la programmation des subs. Spectacles, performances, concerts, fêtes orchestrées par des artistes, conférences, ateliers, visites, espaces lecture, jeux et restauration. À noter une grande nouveauté, le jardin Amour, dissimulé dans les hauteurs des subs. Ce jardin, cultivé par le duo d'artistes Lundi Grand Pré, s'animera d'occupations végétales, corporelles et engagées. Le jardin est ouvert tous les dimanches de 16h à 20h. De nombreux événements sont organisés en partenariat avec d'autres structures culturelles, cas avec le Littérature Live de la Villa Gillet, mais aussi avec les Nuits Sonores, la Maison de la Danse, le Festival de Cirque Les Utopistes, le Ninkasi, l'Orchestre National de Lyon et, pour le week-end de clôture, les 7 et 8 octobre, la première édition du Festival International de l'Illustration organisé par Qui Blinde, le magazine dédié à la culture visuelle et l'illustration contemporaine. Pour plus d'informations sur tous les événements, rendez-vous sur les-sub.com. La programmation se termine le 8 octobre.
Merci beaucoup Gaëlle. Allez, on poursuit et on plonge dans l'azur. Effectivement, pour l'été, je trouve que c'est une couleur tout à fait appropriée. Thomas, cette semaine, c'est une autrice qui a l'honneur de ta lecture. Elle se nomme Mariette Navarro et tu nous proposes un texte, un extrait de son roman Ultramarin chez Kidam Éditeur. On t'écoute et on en parle après.
D'abord, il trace un cercle pour en être le centre. Un grand cercle englobant tout. Le bleu, ses masses noires, ses crépitements blancs, bornés par rien d'autre que l'horizon devenu rond. Depuis le bateau, ils tracent un cercle avec leurs yeux. Ils espèrent le silence. Leurs regards se perdent sur la courbe qui les entoure. Ils espèrent l'abstraction. Ils font de ce rond bleu un tissu rigide, un sol où faire leurs premiers pas. Ils plissent les paupières, maintiennent l'illusion jusqu'à l'apparition d'une vague. Un clapotis qui de nouveau rend tout liquide, profond. Ils tracent un cercle à la surface. On dirait qu'ils prennent la mer pour du papier, leurs bras pour les compas de leur enfance. Ils ne se posent pas la question de ce qu'il y a en dessous. Ils recherchent la perfection du cercle et de la plonger en son centre. Ils imaginent les ondes concentriques que produira leur minuscule corps humain. Ils croient qu'on peut plonger dans un miroir sans être englouti par la vague, disparaître du côté du monde où la lumière ne passe plus. Ils espèrent le silence en coupant les moteurs. C'est sans compter avec le jeu de l'eau, ses battements sur la coque, la revanche du bruit du vent une fois les machines éteintes. Alors tout ce qui grince et souffle n'est plus dû qu'aux forces mécaniques, aux rafales, aux masses d'eau, à l'acier ballotté par la houle et aux respirations des hommes en réponse à ces grands chuintements. Quand les moteurs s'arrêtent, ils perdent l'équilibre qu'ils avaient fini par trouver. Ils sont rétrogradés dans leur apprentissage. Ils redeviennent chiens fous, se cognant partout, vomissant leurs tripes. Mais ils sentent comme une euphorie d'en être arrivés là. Tous sortent de leur cabine à l'heure convenue, sont fidèles au rendez-vous. Pas un n'a envisagé de faire faux bond. Ils ne sont libérés de rien, bien sûr, encore moins de l'inquiétude. Tendus, ils guettent la moindre anomalie, l'embarcation qui penche ou craque, une infiltration peut-être, incertains de pouvoir déceler le danger quand il y en aura un, dépourvus de leurs réflexes. Pour se détendre, ils font de ce vacarme vidé de toute habitude une musique. Ils n'ont plus de métier quand ça s'arrête, plus de trajectoire programmée. Ils n'ont plus beaucoup de connaissances quand ils quittent les tableaux de bord. Sans chaussures le long des coursives, ils perdent de leur assurance, mais ils aiment comme le soleil brûle. Ainsi commence le travail des sensations. Ils se retiennent de glisser en se moquant d'eux-mêmes. Ils font de leur déséquilibre un nouveau jeu. Dans le tangage, ils se suivent sans commenter, posent leurs mains sur le froid des rambardes pour se rassurer. Sensation inconnue. Ils rient un peu du frémissement identique qui se met à les parcourir, tous. Ils avancent sur les ponts vers un des canaux en mesurant leur degré d'inconscience, en effleurant la question de la nécessité, mais ils exécutent les gestes prévus. Déplier les échelles, s'agripper au cordage, se découvrir d'autres muscles dans la tension des bras, se préparer à descendre vers la mer. Ils se penchent et regardent, mesurent la dizaine de mètres qui font qu'ils surplombent encore l'eau. Pour l'instant, le métal de la coursive est encore un morceau de terre où marchaient les pieds secs. D'un œil, il vérifie le beau fixe programmé du ciel. Dans un reflet turquoise, tout doucement, il se rassure. Le passage des Açores a été le signal, le dernier contact avec la terre. Ils ont attendu de ne plus être en vue d'aucune côte, d'aucun bateau lancé dans son commerce. Ils ont débranché les radars. D'ici, aucun oiseau ne pourrait relayer la nouvelle de leur présence.
C'est très beau, effectivement. Il y a une dimension très, très poétique dans cette introduction, parce que c'est vraiment les toutes premières pages du livre que tu as décidé de nous faire découvrir.
Deuxième chapitre.
De quoi parle ce livre, Ultramarin ?
Un livre où on peut voir beaucoup de sujets, hein, suivant l'angle personnel qu'on peut avoir. Moi, je retiens surtout l'angle du commandement. C'est très intéressant. Le personnage principal est une commandante, fille d'un commandant de bateau. Donc il y a régulièrement une filiation qui est tissée avec le personnage du père. Et puis c'est ce rapport de la commandante avec les exigences du quotidien, les procédures à appliquer, et puis la part de liberté, la part d'imprévu, la part du cours des choses et comment elle installe une possibilité d'autre chose dans son commandement quand même.
Tu nous dis un petit mot sur Mariette Navarro ?
Alors Mariette Navarro est née à Lyon, je ne sais pas si elle vit à Lyon, mais je pense qu'elle n'est pas loin puisqu'elle travaille aussi dans une maison d'édition qui s'appelle Chaîne Éditeur, où elle a été publiée autrefois avec un texte que je ne sais pas qualifier. C'est un récit, c'est pas un roman, c'est un récit qui s'appelle Carcasse, un personnage sur un seuil. Et tout le récit, c'est ce personnage sur le seuil. C'est ébouriffant, vraiment. Elle est également très portée sur le théâtre. Elle a publié aux éditions Quartet avec deux ou trois recueils de mémoire. Et moi, je l'ai redécouverte il y a quelques mois au travers de ce premier roman qui s'appelle Ultramarin.
Merci beaucoup Thomas. On va essayer de l'inviter pour lui faire parler de son travail. Ça serait intéressant.
Excellente idée. Oui.
Merci beaucoup Thomas. Nous terminons comme chaque semaine avec nos coups de cœur. Gaëlle, avec quoi es-tu venue cette semaine ?
Mon Gédéon de la semaine est le livre de Nicolas Nova, Exercice d'observation, aux éditions Premier Parallèle, dans la collection Carnet Parallèle, La vie des choses. Alors, remarquez-vous bien ce que vous voyez. Regardez-vous réellement et attentivement. Êtes-vous doté de cette curiosité propice à cultiver l'art d'observer ? Et affinez-vous sans cesse votre sens de l'observation.
Ben non.
Et bien sachez que bien observer se travaille. Comment aiguiser vos sens et garder un œil affûté ? La réponse, ou plutôt les réponses, se trouve dans le livre « Exercice d'observation » de l'anthropologue, enseignant et commissaire d'exposition franco-suisse Nicolas Nova. Entre carnet de bord et carnet d'exercices clair, facile et didactique, inspiré d'écrivains, d'anthropologues, d'ethnographes, de designers ou d'artistes, Nicolas Nova donne de nombreux conseils pratiques qui changeront votre perception du monde. Plus qu'un refresh, l'ouvrage Exercices d'observation offre une véritable réinitialisation de votre sens de l'observation. Parmi les 19 exercices proposés, tels que des relevés de cartes sonores, de cartes d'odeur ou de gestes du quotidien, écoutez l'exercice de relevé de conversation. Alors, rendez-vous dans un lieu public. Un café, un parc, pont public, transport en commun. Rapprochez-vous d'un groupe de 2 ou 3 personnes et prenez des notes à propos de la discussion en cours, en vous attachant à relever le maximum de détails. Phrases émises, ton, volume et hauteur de voix, informations sur la mélodie éventuelle, place occupée par chaque interlocuteur. Produisez ensuite une représentation de la partie signifiante de cette conversation sous forme d'une série de bulles de dialogue, à la manière des échanges de messages sur un smartphone. Cherchez à représenter les singularités de chacun. Voilà l'un des 19 exercices proposés. Ce livre va définitivement vous ouvrir les yeux et vous revigorer. Je rappelle les références. Exercice d'observation de Nicolas Nova aux éditions Premier Parallèle.
Alors c'est amusant parce que mon Gédéon est aussi un exercice d'observation, mais que peu de gens sont capables de faire. Allez, je vous dévoile tout ça. Je vais réunir dans ce coup de cœur la bande dessinée et le musée. Deux espaces pour donner l'occasion de parler d'art, mais aussi de regarder les regardeurs et les chefs-d'œuvre qui prennent vie. Le dessinateur Christophe Chabouté, dans tout simplement intitulé « Musée » aux éditions Vent d'Ouest, revisite le musée d'Orsay. Je dis bien « revisite ». Il y retourne, effectivement, parce qu'il n'y était pas allé depuis très longtemps. Il revisite ce musée absolument incroyable, avec des chefs-d'œuvre incroyables, avec beaucoup de malice. Il dit « l'art n'est pas seulement essentiel, il est juste indispensable ». Cela fait longtemps que Christophe Chabouté ne nous laisse plus indifférents. Depuis Purgatoire, depuis son Landru, mais surtout depuis Construire un feu, tout seul, ou encore Moby Dick, Terre Neuvasse, Un peu de bois et d'acier, ou encore Yellow Cab, les albums uniques s'enchaînent, toujours très maîtrisés, en particulier dans le traitement du noir et blanc. Cette fois, Chabouté est à pied d'œuvre pour nous faire visiter un musée, son musée, le musée du 19e siècle à Paris, le musée d'Orsay. Comment va-t-il traiter ses frères peintres et sculpteurs avec son trait si singulier ? Il fallait pour cela un point de vue et une histoire à raconter. Et il les a trouvés. L'album nous a emballés. Il y avait l'arroseur arrosé. Aujourd'hui, il y a le regardeur regardé. C'est cela le point de vue de Christophe Chabouté. Comment on regarde une œuvre d'art ? On est le focus. Où est le focus ? Comment est l'attitude ? Et pas n'importe quelle œuvre d'art. Les chefs-d'œuvre, Daumier, Ingres, Van Gogh, Renoir, Bourdelle, Modigliani, n'en jetez plus. À l'adolescence, Chabouté visite le musée d'Orsay et tombe sur les parlementaires d'Honoré Daumier. Ces portraits à charge qu'il avait sculptés et dont les pièces sont dans une des vitrines du musée. Il imagine que ces figures se chuchotent des choses entre elles. Revenu ces dernières années au musée d'Orsay, il retombe sur ces personnages qui lui paraissent constituer le fil du récit dont il a besoin et où il est aussi question de parler des autres œuvres du fameux musée parisien du 19e siècle. Mais aussi des gens qui regardent ces œuvres, sans compter les mille et une petites mains qui font fonctionner cette institution, avec un focus, la façon dont les œuvres pouvaient regarder les regardeurs. L'album a demandé plus d'un an de travail en termes d'exécution, mais les notes prises en amont datent de bien plus longtemps. Le parcours dans le musée n'obéit pas à un plan préétabli. J'avais besoin de faire comme un casting au cinéma en fonction des choses que j'avais à raconter, nous dit Chapouté. Cela donne une fable étrange où Héraclès de Bourdel, sorte de géant à la tête fantastique, descendant de son socle comme les statues du jardin extraordinaire de Charles Trenet, puis s'en va gambader en pleine nuit et se demande à quoi servent les WC. Dans un magnifique noir et blanc, on revisite les chefs-d'œuvre du 19e siècle. Ce n'est pas une éducation à l'art, prévient Chapouté. Il y a le regardé qui regarde, le regardeur, et dans le lot, il y a un autre regardeur qui est le lecteur. Pourquoi s'intéresser à ce musée ? L'art n'est pas seulement essentiel, il est juste indispensable, répond l'artiste. Et quand on lui demande s'il prend en compte les préventions de notre temps, il répond « Oui, les statues des femmes sont nues, les hommes sont nus, je ne vois pas où est le problème. » La plus grande difficulté de l'exercice est d'associer son dessin aux traits du sculpteur ou du peintre, sans jamais les trahir. Le musée d'Orsay, une ancienne gare, nous invite à ce voyage dans l'art. Et c'est Chapouté qui nous sert de guide. Je vous rappelle les références. Musée, tout simplement, signé donc Christophe Chapouté aux éditions Vent d'Ouest. Bonne semaine. J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur liondemain.fr. Mmh.